À toutes et à tous, et merci pour cette invitation, merci pour votre accueil. Et c'est une joie encore de partager la présence du Seigneur parmi nous en ce lieu et votre présence, voilà, tous ensemble, pour se pencher sur ce que le Seigneur a encore avoir cette soif, dire Seigneur, tu as encore quelque chose à m'apprendre cet après-midi, et j'aimerais vous inviter. J'aimerais même, enfin, nous inviter, hein, je ne m'exclus pas du tout. Voilà ce message, cette réflexion que j'ai intitulée « Savoir compter sur Dieu ». Mais savoir, et j'aurais même pu ajouter « apprendre à compter sur Dieu ». Ce récit que nous avons lu sur cette femme, il est très révélateur. Voilà, très révélateur de notre approche. Hein, de savoir comment on peut s'approcher du Seigneur, comment on peut apprendre et comment on peut savoir compter sur lui. Voilà, j'aimerais nous inviter à nous pencher et nous intéresser sur les bienfaits de Dieu, sa protection, ses guérisons diverses, miraculeuses, afin de découvrir et surtout apprendre à compter sur lui. Donc cette femme dont nous venons de lire l'épisode de sa guérison est d'abord et avant tout désespérée par ce qui lui arrive. Elle a tout essayé. Elle a sûrement d'abord essayé de se soigner par ses propres moyens, puis par les médecins, divers remèdes, divers plantes, divers conseils, diverses choses. Mais rien n'y a fait. Puis elle s'est à nouveau tournée vers les médecins, pas un, mais plusieurs, des spécialistes à l'époque. Mais rien n'y a fait parce que le récit nous dit que 12 ans, depuis 12 ans, hein, c'est pas comme si c'était hier. Elle a dû sans doute aussi dépenser beaucoup d'argent. Donc non seulement elle était démunie, financièrement parlant, mais aussi accablée de ce qui lui arrivait sans voir de solution. Puis elle a entendu parler des miracles et des guérisons de Jésus. Le souci, c'est qu'elle avait sûrement honte d'avoir ce problème. C'est quand même un problème personnel, certes, mais intime. Et peut-être avec un petit peu de timidité aussi, mais ce n'est pas fait pour arranger les choses. Matthieu ajoute, lui, une précision quant à l'intention secrète et profonde de cette femme. C'est intéressant à noter, et je vous invite, quand vous lisez un passage, à regarder les parallèles pour voir s'il n'y a pas des petites choses à apprendre en complément. Et dans Matthieu, chapitre 9, il nous dit « Et voici, donc, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. » Jusque-là, similitude. « Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Si je pouvais seulement, discrètement, je serai guérie. Puis elle se retourna en disant, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même, sans médecin, sans médicament, par la foi, parce qu'elle a fait confiance, parce qu'elle a su compter sur le Seigneur. Elle lui a rien demandé, en fait c'était une demande secrète au fond de son cœur, mais le Seigneur dit qu'il connaît le fond de notre pensée même avant qu'elle vienne sur nos lèvres. Seul Jésus avait le pouvoir de la guérir. Jésus se laisse approcher, pas seulement de face, hein, la foule qui l'entourait, mais il y avait beaucoup de gens de face. En général, on veut voir la personne en face, on veut croiser son regard, mais il se laisse approcher par tous les côtés, voire même par derrière, en secret. Il ne rejette personne, et surtout, à relever encore que rien n'est trop honteux pour lui être avoué. Je répète. Il ne rejette personne et rien n'est trop honteux pour lui être avoué. Trop souvent, c'est notre propre volonté qui fait obstacle aux plans et aux actions de Dieu. Et je vous invite à lire une autre scène. C'est la scène du paralytique dans Jean 5. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. En effet, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et il nous est dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, ben un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Encore une fois, pas besoin d'aller dans l'eau, seule la parole de Jésus fait la guérison. Jésus, quand même, est surprenant dans ce contexte, dans ce texte, parce qu'il demande à l'homme « Est-ce que tu veux être guéri ?» Je pense que s'il était là depuis 38 ans, probablement, je pense intimement qu'il voulait être guéri. C'est surprenant. Mais Jésus veut s'en assurer. Est-ce que tu n'es pas là en vacances, avec les autres ? De ta condition, mais est-ce que tu veux vraiment être guéri ? Jésus veut s'assurer de sa volonté, du désir de cet homme d'obtenir la guérison. Il veut l'entendre le prononcer de sa propre bouche, « Oui, je veux être guéri. » Mais là, on voit que son handicap l'empêche dans ses déplacements. Et quand il se traîne, il arrive toujours trop tard. Sur qui cet homme paralytique pouvait-il compter ? Sur lui-même ? Ben, on voit que non, il n'y arrive pas. Sur les gens qui l'entouraient ? Malades ou valides ? Ben, les autres malades, la seule chose qu'ils attendaient, c'est d'être guéris d'abord. Et c'était un à la fois. Jésus aurait pu l'aider à descendre dans la piscine ? Mais non, il court-circuite cet acte, ce fait, et le guérit parce que Jésus a tout pouvoir sur les éléments. Il est écrit plus loin que Jésus retrouva cet homme dans le temple. Au verset 14, « Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, il faut bien comprendre ce contexte, et je pense qu'un jour nous aborderons bien ce thème. Quand Jésus dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », il ne faut pas faire le raccourci en disant « Si je suis malade, c'est parce que j'ai péché. » Enfin, c'est un raccourci qui est dangereux. C'est pas du tout ça, c'est pas tout ce que cela veut dire. Puis-je compter et m'appuyer sur mes propres forces, mon intelligence, dans toutes les situations que je traverse dans la vie ? Ben, quelle déception de constater que parfois et même souvent, j'y arrive pas. Et que les autres n'y peuvent rien non plus. Voire même, peut-être qu'ils en ont rien à faire. et qu'ils ont aussi leurs problèmes à régler, et qu'ils aimeraient d'abord régler le leur avant d'essayer de porter et d'apporter une solution au vôtre. Je vous invite à une autre scène. Je commence cette réflexion sur plusieurs scènes de la Bible, et puis nous continuerons sur apprendre justement à compter sur Dieu. Et c'est David contre Goliath. 1 Samuel 16, verset 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. » Il est déjà battu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Elle regarde surtout aussi quels moyens il va utiliser au travers nous. Vous imaginez David contre Goliath ? Pas seulement en taille, mais aussi en stature. L'homme et son apparence, l'enveloppe que l'on montre aux autres en cachant l'envers du décor. Un Samuel 16, verset 11, un peu plus loin, Samuel dit à Isaïe, « Ce sont là tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, le dernier. On n'aurait pas du tout pensé à lui. L'homme n'aurait pas du tout pensé à lui. Parce qu'il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, mais envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Beaucoup de personnes ont défilé devant Samuel, mais personne n'a été retenu. Personne aux yeux de l'homme. Et un peu plus loin, le Philistin dit encore, « Je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Mais j'en ferai qu'une bouchée, ça veut dire. Et tout Israël, on lit que tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Sur qui pouvait-elle compter cette armée ? Sur qui ? Un contre un, certes, mais tous avaient peur. Pas un seul homme fort et audacieux. Chacun voulait compter sur sa propre force et non savoir compter sur Dieu. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il a fait peur à tout le monde. Jésus a été conduit par l'Esprit 40 jours dans le désert. Et Satan est venu une fois, deux fois, trois fois, mais il est reparti bredouille. Il est reparti vaincu. Et Goliath insiste. Et je pense que plus il insiste, plus il se sent fort. Là, on sent dans ce texte combien Goliath prend de l'assurance. Il se dit maintenant, ça y est, là, au 40e jour, je vais tous les croquer. Je vais m'avancer vers eux et ils vont tous se sauver comme des lapins. J'aurai même pas besoin de combattre. Parce que moi, je compte sur ma propre force et je suis fort. Et là, il est dit un peu plus loin que David se leva de bon matin, il laissa les brebis, bien sûr, parce qu'il était gardien de brebis. Il prit son sac, et lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche. En marche juste pour se ranger, comme s'ils allaient entrer en bataille. Et ils poussaient des cris de guerre, peut-être pour essayer de se donner un peu de contenance. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. Et Goliath s'avança et tint les mêmes discours. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Ça commence. Ils s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ce qui devait arriver arriva. Et chacun dit, est-ce que vous avez vu avancer cet homme ? Il jette un défi. Si quelqu'un veut s'avancer, Par contre, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de ses richesses. Il lui donnera même sa fille, et il affranchira la maison de son père. Certes, il y avait un cadeau, il y avait un butin à la clé, mais à quel prix ? Probablement au prix de sa vie déjà. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Et là, on sent la naïveté de l'enfant. Quand on dit à un enfant, « Vas-y, avance. » L'enfant avance. Ou « Va voir, va chercher, il le fait. » Et là, David, le petit David, le chétif et frêle David, il dit, mais moi je vais y aller, hein. J'ai pas peur. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse, même dès avant toi, pendant que toi tu gardais les brebis, lui, il s'entraînait déjà à la guerre. Et quand, à cette époque-là, il s'entraînait à la guerre, c'était pas juste pour manipuler l'un, c'était pour tuer. Hein. C'était pour vaincre l'autre. Et c'était pas pour en tuer un, mais en tuer le plus possible. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. Va, nous... va rester là, on ne sait jamais, parce que si tu es tué, il faut qu'on ait le temps de se sauver. Alors, j'essaie d'imaginer la scène un peu, voyez. On sent pas du tout une unité. Hein, on va t'accompagner, on est juste derrière toi. Non. Bon, ben, puisque tu es sûr de ce que tu fais, vas-y. David saignit l'épée, donc bien sûr on lui apporte l'armure du soldat. Mais à l'époque, les armures, c'était un peu lourd. On lui donna l'épée, le casque, la cuirasse, à tel point qu'il ne pouvait même pas marcher. Il dit, mais je ne peux pas marcher, je ne peux pas avancer. Donc il enleva, vous imaginez hein, la scène hein. On essaie de le protéger et lui, il enlève toute la protection. Parce qu'en fait, il avance avec la protection de l'Éternel. Il prit en main son bâton de berger. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies et il les mit dans sa gibecière de cire parce qu'il était agile de la fronde, probablement pour protéger ses brebis contre les animaux sauvages, hein, pour les repousser. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, parce que David, donc, du coup, il s'est avancé, hein, avec sa gibecière et puis sa fronde et son petit bâton, et il s'est avancé. Et je pense qu'au début, il devait voir le Philistin de loin, mais plus il s'approchait, je pense que plus son regard s'est élevé et a pris conscience de la taille du Philistin. Et quand le Philistin vit arriver David, lui, il a fait le contraire. Plus il voyait arriver David et plus il baissa les yeux en disant « C'est quoi ça ? C'est qui ça ? C'est le meilleur soldat de l'armée d'Israël ?» Vous connaissez la suite ? Vous connaissez la suite ? Jusqu'à ce que il mit une pierre avec sa fronde, il lança la pierre et il tua le Philistin. Et il courut vers lui et lui coupa la tête. Savoir compter sur ses propres forces et savoir compter sur Dieu. Et David a probablement appris dans sa solitude avec le troupeau, il a appris à compter sur cette force que Dieu pouvait lui donner. Il n'a pas eu peur de se battre contre l'ours, contre le lion. Il n'a pas eu peur. Pour lui, un Goliath, un ours ou un lion, C'était qui le plus dangereux ? Dieu sait utiliser la faiblesse contre la force, la douceur contre la violence, l'assurance contre la peur. Puis-je compter et m'appuyer sur mes propres forces, sur mon intelligence, dans toutes les circonstances que je traverse de la vie et les situations ? Un quatrième point, donc le troisième point c'était David, hein, David des Goliaths. Quatrième point, les aveugles, les boiteux, les lépreux. Matthieu 20, 29, 34, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Ah, tiens, un petit peu comme là. Ben, Seigneur, quelqu'un t'a touché, il y a tellement de monde autour de toi. Et là, ben non, qu'est-ce que Jésus a à faire de deux aveugles ? Mais eux, ils crièrent encore plus fort. Là, on a le silence, cette dame qui s'approche en silence, mais là, on a les deux aveugles qui crient très fort. Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ah, ça me fait penser au paralytique. Qu'est-ce que vous êtes aveugle et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, toi qui es aveugle ? Bah, je sais pas. Aide-moi à marcher ? Non, aide-moi à recouvrer la vue. Et là, ils disent que Seigneur, nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et ils commencèrent à recouvrir la vue et le suivirent. Un autre récit dans Matthieu 15. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, et on les mit aux pieds de Jésus et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. On voit au travers de ces récits comment savoir compter sur Dieu devant la force de l'adversaire, mais comment aussi savoir compter sur Dieu dans nos maladies, graves ou moins graves, les infirmités. Là, dans Luc, au chapitre 17, il est aussi question des lépreux, hein, 10 lépreux qui vont à la rencontre de Jésus. Mais ils se tiennent à distance quand même, ils ont peur, hein, parce que, vous savez, à cette époque-là, les lépreux, on les mettait à part, hein, presque avec les déchets. Puis en plus, ils étaient contagieux. Mais ils élevèrent la voix et disent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Jésus, dès qu'il les vu, leur dit « Allez, vous montrez au sacrificateur. » Alors, c'est encore une autre démarche de Jésus. Il n'a pas dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Il n'a pas dit « Soyez délivrés, soyez guéris. » Il leur a dit « Allez, vous montrer au sacrificateur. » Presque « Ben, moi, je peux rien faire, allez voir quelqu'un d'autre. » Mais c'est pour voir si les lépreux allaient obéir simplement à sa parole. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. S'ils n'étaient pas allés, s'ils avaient refusé en disant « Nous, on veut voir Jésus, il nous envoie voir quelqu'un d'autre. Ça ne nous intéresse pas, c'est Jésus qu'on veut voir. Nous, on veut voir le président, on ne veut pas voir le ministre, ni quelqu'un d'autre. » Jésus dit « Tiens, va voir, allez vous montrer. » Hein, il n'avait pas dit « Allez vous entretenir » ou « Allez en discuter, allez vous montrer. » Montrer, c'est sans parole. Je viens me montrer pour qu'il me voie. Mais c'est l'action de la foi d'y aller qui a fait qu'ils furent guéris. Mais vous savez qu'il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Les 9 autres, ils ont pris pour argent comptant, ils ne sont pas revenus au moins dire merci à Jésus. Mais l'un est revenu, et en plus le texte précise que c'était un Samaritain, c'était même pas un Juif. C'était un ennemi des Juifs. Jésus prenant la parole dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Parce que Jésus savait que les 10 avaient été guéris, et pas qu'un seul. Et les 9 autres sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et là, elle lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a une double bénédiction. Là, on était dans le physique, on a beaucoup parlé de délivrance physique, on a beaucoup parlé aussi de s'approprier la force de Dieu, savoir compter sur Dieu pour David et Goliath. Mais il y a aussi l'action de Dieu dans les maladies mentales, les maladies spirituelles, dans les doutes, dans le péché. Là, on quitte le physique, mais on vient un peu plus sur l'abstrait. Pour montrer quoi? Pour montrer que Dieu agit dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où Dieu ne peut pas agir, où Dieu ne veut pas agir, où Dieu ne sait pas agir. Dans Matthieu 17, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, pardon plutôt, qui est lunatique. Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Il doit être dans un état. « Je l'ai amené devant tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Dans Luc 8, les 12 étaient près de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, notamment Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et puis il y a aussi la femme adultère. Dans Jean 8, les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Je passe la suite, j'arrive à la fin. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et puis il y a quelque temps, on avait parlé de Zachée. Zachée aussi a été, lui, sa curiosité l'a emmené à accepter Dieu dans sa vie et à rendre le bien pour le mal qu'il avait fait. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, comprenez bien l'action de Dieu dans nos vies. Que ce soit une question de force, se saisir de la force de Dieu, savoir compter sur elle, savoir compter sur Dieu dans nos diverses maladies, savoir compter sur Dieu aussi dans nos divers problèmes spirituels, mentaux, nos doutes, nos péchés divers. Nous continuerons, Dieu voulant, dimanche prochain. Et nous essaierons de vraiment de s'approprier cette parole, d'apprendre à compter sur Dieu. Mais pas se dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? Non, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous permette de nous approprier, de savoir compter sur lui. Et juste avant de... Tu as coupé l'enregistrement? Tu peux couper. Si quelqu'un a un témoignage par rapport à ce que l'on vient de partager sur savoir ou apprendre compter sur Dieu, venez me voir. J'aimerais pouvoir l'intégrer lors d'un message. Merci.